Les grands discours sur France Inter.
As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
En juin 1963, le président John Kennedy est très attendu en Allemagne de l'Ouest pour une visite de plusieurs jours. Tout a été minutieusement préparé et organisé. Mais le cinquième jour de sa visite, prévue à Berlin-Ouest, à peine 2 ans après la construction du mur de Berlin, va être pour le président américain un des jours les plus marquants de sa carrière politique. Ce jour-là, sur la place Rudolf Wild, à la tribune de l'hôtel de ville, devant quelques 400 000 personnes et des caméras retransmettant ces images dans le monde, John Fitzgerald Kennedy prononce une petite phrase qui va devenir très célèbre. Mais pourquoi prononce-t-il cette phrase ? Volontairement écrite juste avant son discours et dite en allemand. Pourquoi ce voyage présidentiel jusqu'à Berlin-Ouest, enclave dans le monde communiste en pleine guerre froide ? 5 mois plus tard, John Kennedy sera assassiné lors d'un voyage officiel au Texas. Les Berlinois de l'Ouest débaptiseront la place Rudolf Wild pour lui donner le nom de place John Fitzgerald Kennedy.
Les grands discours, Christophe Barrère.
Cette semaine dans les grands discours, Berlin, 1963, Kennedy face au mur. En seconde partie d'émission, nous recevrons Thomas Negaroff, historien et spécialiste des États-Unis.
Les grands discours, une émission de France Inter, sur une idée d'Aurélie Luneau et Jean Bulot, préparée par Caroline Debray, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA.
À la technique, Michel Bézikion.
Réalisation, Stéphane Ronxin.
Ici Berlin. La route de la liberté est coupée à Berlin depuis le 13 août exactement. C'est ce matin-là, à l'aube, que Pankow a mis en place la muraille de Berlin, qui coupe maintenant en deux l'ancienne capitale de l'Allemagne. Le 12 août, plus de 3000 réfugiés passaient encore de l'est à l'ouest. Sans grande difficulté, il leur suffisait de prendre le métro ou de passer tranquillement dans les poches. Aujourd'hui, choisir la liberté à Berlin est un exercice de plus en plus dangereux et de plus en plus rare. Pourquoi ? Parce que les trous de la muraille de Berlin sont maintenant bouchés de plus en plus hermétiquement. Il ne reste plus guère à Berlin-Est que quelques fenêtres ouvertes sur la liberté. Et il faut sauter du 3e et du 4e étage pour passer, si on peut dire, de Berlin-Est à Berlin-Ouest.
Depuis le 13 août 1961, le mur de la honte coupe la ville de Berlin en deux zones opposées. Berlin-Ouest, sous la protection des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, et Berlin-Est, sous influence soviétique. La ville occupe donc une place hautement symbolique. D'abord parce que c'est une prise de guerre des 4 grands vainqueurs. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont partagés l'Allemagne et sa capitale, Berlin. La ville de Berlin est aussi une zone particulièrement stratégique en ces temps de guerre froide. C'est le seul endroit au monde où cohabitent les deux modèles, capitaliste et communiste. Par ailleurs, Berlin, se trouvant au nord-est du pays, la zone ouest, est donc une enclave capitaliste en plein pays communiste. C'est donc un lieu important qui détermine l'influence des deux blocs, occidental et soviétique, sur le monde. Entre 1958 et 1962, Berlin est d'ailleurs au cœur d'une crise internationale très grave, qui a failli dégénérer. En 1958, Nikita Khrouchtchev, le président de l'URSS, décide, par surprise, de demander aux Occidentaux de quitter la ville. Il demande à ce qu'elle soit démilitarisée et rendue indépendante. Mais les Alliés flairent le mauvais coup. Khrouchtchev semble bien avoir une idée derrière la tête et c'est celle d'intégrer Berlin à l'Allemagne de l'Est. Les Russes ne supportent pas cette enclave. Il leur faut effacer l'affront d'avoir un irréductible village d'Occidentaux en plein sur leur territoire. De plus, de nombreux Berlinois de l'Est profitent de la partie ouest de la ville pour passer en territoire occidental. En 15 ans, 3 millions d'Allemands de l'Est ont réussi à émigrer vers l'Ouest, ce qui ne plaît absolument pas aux Soviétiques. Alors pour arrêter l'hémorragie, le 12 août 1961, il lance la construction surprise en pleine nuit d'un mur à la frontière entre la trizone américaine, française et anglaise et la zone communiste. C'est le mur de Berlin. John Fitzgerald Kennedy, le président américain nouvellement élu, qualifie le mur de solution peu élégante mais 1000 fois préférable à la guerre. Néanmoins, il est inquiet. Pour les États-Unis et globalement les pays du bloc occidental, le sort des habitants de Berlin-Ouest représente un défi à ne pas perdre. Il faut les aider. C'est le combat pour les valeurs de l'Ouest et la liberté. Seulement, il faut le dire avec tact, comme le montre cette réaction à chaud du président Kennedy.
Nous sommes bien conscients, comme le vice-président l'a souligné, que nous allons traverser des semaines et des mois difficiles. Quant au maintien d'un Berlin-Ouest libre, mais nous allons y parvenir.
En réalité, les Occidentaux sont furieux de cette provocation soviétique. Mais en 1961, il faut savoir garder son sang-froid. Faut-il risquer un conflit militaire pour un si petit territoire ? La situation est très tendue. Le monde entier vit sous la menace d'une guerre nucléaire. Les forces militaires des deux blocs pourraient anéantir la planète et tentent donc de rester dans un précaire équilibre, celui de la terreur. La menace est réelle et les populations ont peur. Voici un exemple de message de prévention diffusé dans les écoles américaines pendant les années 1950. Ce film que vous allez écouter, intitulé « Duck and Cover »,« Plonge et couvre-toi » en français, explique aux enfants comment se protéger si une bombe atomique explose.
Dum, dum, diddle, dum, dum.
Si un flash blanc plus brillant que le soleil explose, tu peux être emporté par un souffle. Alors plonge et couvre-toi. Voilà, c'est dit. Mais à y réfléchir, la construction du mur de Berlin pourrait aider à la résolution du conflit. Les deux forces continuent quelque temps à montrer leurs muscles d'un côté et de l'autre côté du mur. Mais en coulisses, les choses se calment rapidement. Le mur a eu un tel impact négatif sur l'image du bloc soviétique que c'est déjà une petite victoire pour les Occidentaux. Le monde entre alors dans une période de détente. Le bras de fer et la provocation militaire sont devenus absurdes et trop dangereux. Les deux blocs se concentrent donc sur de nouveaux domaines d'influence, la guerre économique et le progrès technique. Le but de chacun est donc de prouver qu'il est le meilleur, par tous les moyens. On envoie des hommes dans l'espace, à l'est, alors que Hollywood exporte sa culture de masse. Et de chaque côté, on essaie de convertir de nouveaux pays à sa cause, pour augmenter la taille de son équipe. Et surtout, chaque camp fait un usage massif de la propagande pour défendre son modèle et dénoncer les dérives de l'autre. À l'Occident, c'est la liberté qui est la valeur essentielle, comme tente de l'expliquer ce film de propagande américain fait par la CIA.
Parle anglais, camarade. Souviens-toi, c'est la seule liberté que tu n'as pas dans cette ville. C'est une ville américaine.
Les Américains, ils ont trop de liberté.
Tu ne dois pas oublier, camarade. Un jour, ce sera notre mission de détruire ces libertés bourgeoises et capitalistes.
Et dans le camp soviétique, on insiste bien sûr sur l'égalité, sur l'absence de pauvreté et sur les travers de la société américaine, son racisme et son impérialisme. Comme dans cette vidéo de propagande soviétique de 1963 où un Américain et sa fille vont en Union soviétique pour passer des vacances.
Мой друг, у тебя удивительный вкус, сказал ей отец за обед.
Le père téléphone à un hôtel à Leningrad et réserve alors deux chambres en précisant « pas de noir ni de chinois parmi nos voisins ». C'est une guerre symbolique qui advient et John Fitzgerald Kennedy l'a bien compris. Il arrive au pouvoir en janvier 1961, en plein milieu de la crise de Berlin. C'est le plus jeune président américain de l'histoire et il bénéficie d'une très bonne image, celle d'un homme progressiste et courageux. Sa politique extérieure se résume en une doctrine qu'il énonce lors de son discours inaugural en janvier 1961. «
Que tous les pays le sachent, qu'ils nous veuillent du bien ou du mal. Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix, à supporter tout fardeau, à endurer toutes les épreuves, à soutenir tous nos amis et à nous opposer à tout ennemi afin de garantir la survie et le succès de la liberté.
En d'autres termes, il veut maintenir la cohésion du bloc de l'Ouest à tout prix. Kennedy n'est pas un pacifiste, loin de là. Il croit en la guerre. Mais il connaît la gravité de la situation diplomatique et la menace nucléaire. D'ailleurs, en juin 1961, quand il rencontre Nikita Khrouchtchev à Vienne, il annonce « Nous serons prêts à nous battre pour Berlin ». Avant son célèbre discours, sur la place de la mairie de Berlin, en 1963, Kennedy a dû faire face à plusieurs moments de crise diplomatique. En 61, par exemple, alors que l'île de Cuba a été prise par Fidel Castro et ses hommes, il commandite une attaque par des militants anticastristes sur la baie des Cochons. L'opération est un échec complet et menace la paix internationale. Quelques mois plus tard, c'est la crise des missiles qui place le monde au bord du précipice. Ces affaires rendent Kennedy nerveux. Il craint de plus en plus la provocation ultime des soviétiques, l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres et déclencher le drame. Il doit à la fois maintenir le rang et le prestige américain, tout en maintenant la coexistence pacifique avec l'URSS, sans pour autant être complaisant. C'est un véritable travail d'équilibriste. Sa position glisse progressivement vers un plus grand pacifisme. Kennedy a compris, en 1963, épuisé par les crises inquiétantes qu'il vient de traverser, que c'est une position plus efficace politiquement. C'est cette paix qu'il défend avec brio lors de son discours à l'American University le 10 juin 1963 à Washington, quelques jours avant d'entamer sa tournée européenne.
Peace. What kind of a peace do I
mean? Quel est le type de paix auquel je pense? Quel type de paix recherchons-nous? Non pas une Pax Americana qui s'imposerait sur le monde par les armes de guerre américaines. Non pas la paix de la tombe, ni celle de la sécurité qu'offre l'esclavage. Je veux parler de la paix authentique, du type de paix qui fait que la vie sur Terre vaut la peine d'être vécue, du type de paix qui permet aux hommes et aux nations de se développer, d'espérer et de construire une vie meilleure pour leurs enfants, non seulement la paix pour les Américains, mais la paix pour tous les hommes, non seulement la paix pour notre époque, mais la paix pour les siècles à venir.
C'est donc un émissaire de la paix que John Kennedy arrive sur le continent européen. Il a prévu une tournée dans plusieurs pays, dont l'Allemagne de l'Ouest, et grande première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un arrêt à Berlin. Il est invité par le chancelier allemand, Konrad Adenauer, et le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt. Son objectif est de réaffirmer l'amitié et le soutien des Américains au peuple ouest-allemand et aux Berlinois. L'accueil de la population est extrêmement chaleureux. Il est perçu comme un héros, un protecteur, un symbole de liberté. L'équipe d'officiels lui a prévu lors de cette étape berlinoise un parcours en voiture pour lui montrer les différents points d'intérêt de la ville et le fameux mur de la honte. Tout le long du parcours, le président américain va de surprise en surprise. Tout d'abord, les centaines de milliers de Berlinois qui sont venus pour l'acclamer. Tout le long du parcours, le président américain va de surprise en surprise. Tout d'abord, les centaines de milliers de Berlinois qui sont venus pour l'acclamer. Sur son passage, les habitants le saluent, crient son nom, lui jettent du riz, des fleurs et même des millions de confettis depuis leurs fenêtres, donnant à sa visite des airs de parade américaine. À 11h35, Kennedy s'arrête à la porte de Brandebourg, où il devait pouvoir observer, depuis une plateforme surélevée, la ville de Berlin-Est. Mais quelque chose cloche. D'immenses tentures ont été tendues entre les colonnes et lui bouchent la vue. Et surtout, à peine arrive-t-il en haut de la plateforme qu'un camion surgit de l'autre côté du mur. Il tire un immense panneau jaune sur lequel est écrit en rouge et en anglais un message à destination du président américain. il accuse les États-Unis de ne pas avoir respecté les engagements pris avec Staline en 1945 à propos de la ville de Berlin et réclame la démilitarisation de toute l'Allemagne de l'Ouest. Kennedy fait comme si de rien n'était et poursuit sa route. Prochain arrêt, Checkpoint Charlie, le célèbre et unique point de passage du mur. Là encore, un message l'attend. Nous voulons la conclusion d'un traité de paix allemand et la transformation de Berlin-Ouest en une ville neutre et libre. Kennedy reste de marbre pour les caméras, mais il a bien sûr remarqué les messages. Au départ, son discours devait seulement réaffirmer le soutien des États-Unis à la RFA et à Berlin-Ouest, dans la continuité d'un renforcement atlantique. Mais les provocations le poussent à changer quelque peu son texte. Et sur la place Rudolf Wild, où il doit prononcer son discours, la foule est au rendez-vous. 400 000 personnes se sont déplacées pour voir le président américain, soit près d'un Berlinois sur cinq. C'est le plus gros événement public depuis la fin de l'Allemagne nazie. C'est donc dans une ambiance de liesse que Kennedy monte à la tribune pour prononcer son discours, qui traversera l'histoire et restera dans les mémoires.
My bills are all due, and the baby needs shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without its bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned and last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke, no bread, I mean like nothing, forget it.
Aujourd'hui, dans les grands discours, Berlin, 1963, Kennedy face au mur.
2000 years ago, 2000 years ago.
Il y a 2000 ans, la fierté suprême était de dire
Kiwis Romanus sum. Today,
aujourd'hui, dans le monde de la liberté, la fierté suprême est de dire
Ich bin ein Berliner.
Après les quelques formules de politesse et de remerciements de rigueur, Kennedy commence fort et lance sa formule Ich bin ein Berliner. Son interprète lui a écrit ces mots en phonétique sur un petit papier pour être sûr de ne pas se tromper. Sa phrase lui attire bien sûr la sympathie du public, mais elle a une portée bien plus grande. Tout d'abord, en choisissant de la mettre en parallèle avec la formule latine « Kiwis Romanus sum », JFK place la ville de Berlin dans la grande histoire du monde. Cette formule, qui signifie « Je suis un citoyen romain », servait à l'époque à affirmer ses droits. Et c'est précisément ce message que veut faire passer le président, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à être libre. Puis Kennedy se fend d'une petite touche d'humour avant de continuer son discours.
Je remercie mon interprète d'avoir traduit mon allemand.
Au départ, Kennedy avait prévu de réaffirmer seulement le soutien des États-Unis à l'Allemagne de l'Ouest. Mais les surprises de sa visite le poussent à choisir un autre angle, la critique du communisme. C'est donc sur cette actualité qu'il choisit d'insister, en invitant les autres dirigeants du monde à faire de même, grâce à cette formule qu'il répète plusieurs fois. Qu'ils viennent donc à Berlin.
Le monde ne manque pas de personnes qui ne veulent pas comprendre ou qui prétendent ne pas vouloir comprendre le litige entre le monde libre et le communisme. Qu'elles viennent donc à Berlin. D'autres prétendent que le communisme est l'arme de l'avenir. Qu'ils viennent eux aussi à Berlin. Certains, enfin, en Europe et ailleurs, prétendent qu'on peut travailler avec les communistes. Qu'ils viennent donc cela aussi à Berlin.
La formule n'est pas choisie à la légère. Kennedy n'invite pas à venir voir Berlin-Est pour constater les dégâts du communisme. Il ne les invite pas non plus à visiter Berlin-Ouest pour observer la prospérité du monde capitaliste. Il les invite à visiter Berlin, les deux Berlin. Sans le mentionner, sans prononcer de véritable critique, il parvient, avec cette phrase, à démontrer l'écart entre les deux villes, le contraste qui existe entre deux mondes. La suite de son discours est toujours plus sévère et plus directe et place le régime soviétique face à cette ambiguïté. Pourquoi avoir fait ce mur ?
Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement à l'histoire, mais encore une offense à l'humanité.
Kennedy se place donc dans le domaine de la lutte pour les droits humains, les droits universels. Le combat entre les deux blocs est un combat sur des valeurs fondamentales. Pour les États-Unis, la valeur première est la liberté. Le mur de Berlin est donc l'absolu contraire à ces valeurs. En privant les hommes de leur liberté de mouvement, le bloc communiste les prive de leur humanité. Et surtout, la construction du mur démontre l'échec du modèle communiste. S'il était si efficace, si les citoyens étaient si heureux, pourquoi avoir construit un mur ? C'est la preuve de la défaite du modèle soviétique et donc la victoire du modèle américain. La démocratie occidentale, elle, n'a pas besoin de mur. Ce discours de Kennedy fait naître un paradoxe. Alors que la construction du mur avait apaisé les tensions entre les deux blocs en mettant fin à la crise de Berlin, il retourne la situation. Le mur et le sort de la ville reviennent au cœur de la diplomatie internationale.
La paix durable en Europe ne peut pas être assurée tant qu'un Allemand sur quatre sera privé du droit élémentaire des hommes libres à l'autodétermination. Je vous demande donc de regarder par-dessus les dangers d'aujourd'hui vers les espoirs de demain. Ne pas penser seulement à votre ville et à votre patrie allemande, mais d'axer votre pensée sur le progrès de la liberté dans le monde entier.
La lutte pour les droits des Berlinois devient la lutte universelle pour la liberté. Une lutte qui porte aussi un espoir. Les Berlinois ne sont pas seuls au monde. Le mur n'est plus une fatalité. Kennedy arrive à la fin de son discours. Et la critique se fait encore plus acerbe contre le régime communiste. Pour lui, le régime soviétique est l'antithèse de la liberté. Il lance un parallèle avec l'esclavage.
Au-delà du mur, envisagez le jour où éclatera la paix
une paix juste. La liberté est indivisible, et tant qu'un seul homme se trouvera en esclavage, tous les autres ne peuvent être considérés comme libres.
Kennedy affirme donc ici à la fois sa critique du communisme et son soutien au peuple allemand. Mais plus encore, la responsabilité du monde entier à être solidaire de sa cause. Et c'est donc par une sorte de slogan, de ralliement lancé à tout l'Ouest, qu'il conclut son discours avec les mots qui l'ont ouvert. « Ich bin ein Berliner ».
Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. Et pour cette raison, en ma qualité d'homme, d'homme libre, je dis
« Ich bin ein Berliner ».
Le dégel des relations Est-Ouest n'aura pas duré longtemps. Nikita Khrouchtchev est surpris. Lors de leur rencontre à Vienne, en Autriche, les 3 et 4 juin 1961, Kennedy avait affirmé sa volonté de réchauffer les relations avec l'Est. Khrouchtchev, le leader soviétique, déclarera d'ailleurs que les deux discours paraissaient avoir été prononcés par deux présidents différents. Malgré le retour des tensions, les deux dirigeants veulent bien continuer à négocier et le monde entre définitivement dans la détente. Un téléphone rouge est installé pour permettre une liaison rapide entre la Maison Blanche et le Kremlin. Puis, au mois d'août 1963, le traité de Moscou est signé, interdisant tout essai nucléaire, atmosphérique et sous-marin. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas, au Texas. Mais la dynamique est lancée et la guerre froide se termine. Il faudra pourtant attendre le 9 novembre 1989 pour que soit enfin détruit le mur de la honte. Et cette petite phrase « Ich bin ein Berliner » trouvera une place particulière dans les mémoires, à Berlin et ailleurs, pour longtemps.
Well, it ain't no use sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. It ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
Aujourd'hui, dans les grands discours, Berlin 1963, Kennedy face au mur.
Les grands discours, Christophe Barrère.
Avec notre invité, Thomas Nugaroff. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous avez écrit plusieurs livres, vous animez la rubrique Histoire d'info sur France Info. Mais il y a surtout un livre qui correspond parfaitement bien à l'émission que nous traitons aujourd'hui sur Kennedy. C'est votre livre « Kennedy, une vie en clair-obscur » chez Armand Collin. Alors, avant de commencer cette plongée dans la guerre froide, dans la tension, je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous vouliez dire quand vous parliez du président et de faire ce parallèle entre l'homme, jeune, et puis la fonction, le président, le pouvoir politique aux États-Unis à cette époque-là. Le clair-obscur entre Kennedy, l'homme, et Kennedy, le président.
C'est une vaste question. La complexité du personnage Kennedy, c'est qu'il y a un personnage public qui est un président jeune, qui est une incarnation de la modernité, de la beauté, de la force virile aussi, hein, parce qu'on va en parler, mais la période de la guerre froide implique aussi un combat pratiquement d'homme à homme hein, entre le président américain et le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, en l'occurrence Nikita Khrouchtchev, à l'époque. Et donc il y a une image publique qui doit être celle-ci, celle de la vitalité. Mais si le livre, je l'appelais en clair-obscur, c'est qu'il y a aussi une obscurité, une part d'ombre qu'on a, vous et moi. Hein. Mais quand on est Kennedy, elle est certainement encore plus ombrageuse, parce qu'il y a notamment... si on conserve l'idée en tête du corps viril, il y a un corps au contraire dysfonctionnant, malade, et il y a donc un décalage extrêmement fort entre l'image donnée, qui est l'image politique, l'image publique, l'image même géopolitique, et l'intimité de ce corps qui souffre. Et donc on est effectivement dans un entre-deux qui n'est pas sans rappeler ces entre-deux de la peinture de la Renaissance et du clair-obscur auquel je fais allusion.
Il y a aussi le temps. Kennedy entre en fonction le 20 janvier 1961, il devient président des États-Unis, jusqu'à son assassinat, le 22 novembre 1963 à Dallas. Dans ce laps de temps très très court, 2 ans et demi, vous en parliez, c'est la guerre froide, c'est une tension mondiale terrible, c'est un risque de guerre nucléaire. Alors comment cet homme, qui arrive à 43 ans, va prendre ça, va se retrouver avec un ennemi, entre guillemets, l'URSS, des gens de métier, comme Nikita Khrouchtchev, comment il va vivre ça? Où va-t-il trouver de l'aide ou des conseils? Parce qu'il commence aussi, sur l'année 61, terrible. Cuba, les missiles, la chronologie sur ces 3 années, presque 3 années, est vraiment terrifiante.
Kennedy va profiter de cette chronologie, puisque le vieux président Dwight Eisenhower, qui souffre en 1955 d'un infarctus, qui est un président vieillissant, qu'on considère comme étant incapable de faire face aux défis physique aussi hein, que lui impose et au défi symbolique que lui impose l'URSS, ça se traduit notamment en 57 par Spoutnik, hein, le premier engin envoyé en orbite autour de la Terre. Et ça, c'est un indicateur très grave pour les Américains. Ils sont en train de perdre pied dans une bataille technologique d'ampleur. Et le symbole même, c'est vraiment dans la presse de l'époque, on voit Eisenhower qui joue au golf et qui regarde Spoutnik comme ça, de loin, incapable de réagir. Et donc Kennedy va arriver aussi fort de ce sentiment, certainement un peu excessif, mais d'un déclin de l'Amérique. Et il va incarner dans son corps, dans sa virilité, une capacité d'une Amérique à réagir. Vous savez, le président américain est une sorte de miroir, tant un miroir flatteur aux Américains. Et là, le miroir flatteur, c'est un jeune homme, 43 ans, vous l'avez dit, capable d'affronter les défis extraordinaires du moment. Et donc la chronologie, bien sûr, après, va devenir extrêmement complexe, mais c'est aussi cette chronologie qui lui permet d'arriver au pouvoir et d'incarner une Amérique qui, enfin, va pouvoir réagir face aux défis soviétiques.
Et pourtant, 1961, très peu de temps après son entrée en fonction, il y a la crise de Cuba, qui est un échec.
Alors, il y a plusieurs temps.
Qu'il revendique.
Alors, il y a d'abord la baie des cochons, qui est un
la
échec.
La baie des cochons, absolument.
Mais la baie des cochons, c'est un héritage de l'administration Eisenhower. Mais comme il le dit, la victoire a 1000 visages, mais la défaite n'en a qu'un seul. Donc, il accepte d'être le visage de la défaite et de l'humiliation. Et puis, en 62, vous avez raison, il y a la crise de Cuba. Et la crise de Cuba, elle est fondamentale parce qu'elle s'inscrit, encore une fois, dans une temporalité et dans une relation personnelle qui nous amène tout doucement déjà à Berlin de 1963. Replongeons un petit peu dans le temps. On est en juin 1961 et il y a la première rencontre à Vienne entre Khrouchtchev et Kennedy. Cette rencontre, elle est capitale pour Kennedy, très jeune homme, qui doit faire face à un vieux routier de la politique qui est à la tête de l'URSS depuis quelques années déjà. On se souvient du 20e congrès du Parti communiste en 1956. Il a succédé à Staline. Et il n'arrête pas de dire « Kennedy, j'ai hâte de rencontrer ce président qui a l'âge de mon fils ». Et c'est volontaire. Il a envie d'introduire une relation asymétrique avec les Américains et de montrer que le patron, il est à l'Est, il n'est pas à l'Ouest, et l'expérience et la force, elle est à l'Est et elle n'est pas à l'Ouest. Et forcément, face à un tel défi, et quand on se souvient comment a été élu et sur quelle valeur a été élu John Kennedy, forcément, Kennedy prend ça comme un défi à sa jeunesse, à sa capacité d'être un président, parce que on se pose beaucoup la question aux États-Unis. Il est quand même extrêmement jeune, il n'est pas très entouré, vous parliez d'entourage, il n'y a pas grand monde autour de lui. Et donc on est un peu inquiet. Et donc lui dit, voilà, je vais y aller, je vais lui montrer. Sauf que ça se passe extrêmement mal, il est humilié par Khrouchtchev qui lui fait quasiment une leçon de géopolitique en public. Et au retour en avion, c'est un moment incroyable, Kennedy revient à Washington. D'ailleurs les commentateurs à l'époque vraiment notent sur le visage de Kennedy qu'il s'est passé quelque chose de grave à Vienne. Et il repart à la Maison Blanche et il dit à son frère Bobby, ce Khrouchtchev il est pire que papa. Ce qui est, quand on connaît la famille Kennedy, quelque chose d'extrêmement dur. Et donc va naître chez Kennedy la volonté d'en découdre et de montrer que Khrouchtchev a en face de lui un président à qui parler. Et c'est un peu dans ce contexte-là que la crise de Cuba va se nouer. Alors bien sûr, il y a une vraie crise, il y a effectivement des missiles, il y a effectivement des bases avec un alphabet cyrillique à Cuba, à quelques kilomètres des côtes de Floride. Ça, c'est une réalité. Mais le bras de fer que va engager Kennedy, à mon avis, doit se comprendre comme le match retour de ce qui s'est passé un peu plus d'un an plus tôt à Vienne.
Dans le contexte aussi de ce voyage à Berlin, il y a quelques années, enfin en 61 aussi, la date de la construction du mur de Berlin.
Oui, parce que
là aussi.
Oui, parce qu'on est juste après la rencontre de Vienne, en fait, hein, un mois après,
en août.
Deux mois après, la nuit du 12 au 13 août 1961, à Berlin est érigé effectivement. Alors en une nuit, c'est pas un mur, hein, c'est d'abord de grillage, quelques miradors, etc. Et puis ça va devenir progressivement un véritable mur de briques et bientôt de sang d'ailleurs.
Mais le symbole est là déjà.
Mais le symbole est là et il n'y a pas de réaction de Kennedy.
Voilà.
Il n'y a pas de réaction directe.
Il dit même qu'il vaut mieux un mur que la guerre.
Oui, voilà, c'est ça. On a un Kennedy qui accepte quelque chose qui pourrait apparaître comme inacceptable, même si c'est justifié par les Soviétiques pour dire qu'il s'agit d'empêcher les gens de l'Ouest d'aller vers l'Est, alors qu'on sait que c'est évidemment le contraire qui est en train de se passer. Mais Kennedy laisse passer la chose. Il n'est pas encore le Kennedy de la fin de son mandat, enfin en tout cas la fin avortée de son mandat. Et on lui reprochera aussi beaucoup d'avoir laissé faire, puisque souvent les historiens, ou plutôt les commentateurs aujourd'hui, voient un rapport direct entre le mur et le discours qui nous occupe aujourd'hui, mais il y a quand même 2 ans entre les deux. Hein. 2 ans, c'est quand même extrêmement long. Et donc, la réaction a été très lente de la part de Kennedy.
Thomas Segarov, on fait une pause musicale, on se retrouve et on rentre à Berlin avec Kennedy.
Mon père au sommet d'une montagne libre. Je veux voir ma mère sous le soleil de juillet. radieuse et toutes les craintes, toutes les angoisses évanouies. Je veux voir mon frère, ma sœur d'un autre pays. Viens chez toi sans peur, viens t'installer ici, faire une famille. Et tout ce qui, lorsqu'ils parlent, me disent, crache des grenouilles, mourront de trouille. Tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur, ils vont périr et nous de rire. Je veux voir, 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 voir. Je veux vous voir. Sauvage et invincible, je veux voir la France débarrassée de tous les irascibles, de tout ce qui, lorsqu'ils parlent, me disent, crache des grenouilles, mourront de trouille. Tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur, ils vont périr et nous de rire.
Grand discours sur France Inter.
On se retrouve, Thomas Negaroff, sur Kennedy à Berlin, face à ce mur. Nous sommes à Berlin. Il arrive en Allemagne d'abord. Pourquoi ce voyage en Allemagne et à Berlin? Qui l'organise? Est-ce que c'est Kennedy qui le décide?
Alors, c'est l'administration américaine. Non. Il s'agit effectivement de commémorer les 25 ans du blocus. Enfin, plutôt de la fin du blocus. Les Américains, en 1948, avaient brisé le blocus de Berlin par un pont aérien. On était en 1948 et on fête effectivement ce moment-là en 1963. Mais c'est surtout une occasion pour Kennedy d'aller face au mur, au pied du mur, et de faire un grand discours. Il est accueilli par une foule extraordinaire. Vous avez 400 000 personnes qui l'accueillent. C'est le discours qu'on attendait à Berlin depuis 1961 quand même. Il est celui qui apporte un soutien décisif à la population de Berlin. Faut pas oublier le nombre de Berlinois dont la famille a été divisée en deux. C'est quelque chose qui est vécu dans la chair par les habitants. Et on attend ce discours de Kennedy, un discours écrit par son conseiller Ted Sorensen, qui écrit tous les grands discours de Kennedy, celui-ci en particulier. Hein, c'est pas Kennedy qui l'a écrit, c'est Sorensen. Mais bon, Kennedy, bien sûr, a mis sa patte, l'a reformulé et surtout l'a prononcé. Il est sidéré de voir l'enthousiasme devant un tel discours. C'est véritablement une marque de soutien que la population attendait. Il s'agit surtout pas d'appeler à la guerre. Hein. On n'en est pas là du tout. On n'en est plus là. Hein. C'est plus le moment de Cuba. On est dans ce qu'on appelle la détente depuis quelques mois. Vous savez, après la crise de Cuba, qui était un acmé vraiment de la guerre froide, on s'est rendu compte à quel point on était passé à deux doigts d'une guerre nucléaire. On a eu le téléphone rouge qui s'est mis en place pour aller plus vite en cas de crise, pour les déminer avant qu'elles ne deviennent des crises aussi graves, qu'elles n'éclatent. Et donc, on est dans un temps d'apaisement des relations, mais un temps d'apaisement des relations d'un point de vue militaire. En revanche, on est dans un temps, du coup, de mobilisation idéologique. On est passé de l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'affrontement militaire est en train de se muer ou de se remuer, parce que c'était déjà le cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en un affrontement essentiellement idéologique. Et là, la chronologie est à nouveau importante, parce que en juin 1963, il y a une affaire intérieure aux États-Unis. C'est l'affaire d'Alabama, l'université d'Alabama, le gouverneur Wallace qui interdit l'entrée des étudiants dans l'université.
Oui, parce que les États-Unis, à l'époque, le racisme est terrible. La violence est terrible.
Un racisme terrible, même si la Cour suprême a rendu des avis qui notamment imposent l'intégration raciale, on a encore dans le sud des États-Unis des gouverneurs qui ne supportent pas l'idée que des Noirs puissent entrer à l'université, des Blancs en l'occurrence, et Kennedy décide avec son frère d'imposer la loi. Et donc en 63, il agit. Pourquoi agit-il? Alors pour plein de raisons idéologiques, peut-être aussi de calcul politique, parce qu'il y a une réélection qui arrive, mais aussi parce qu'il a compris et il a vu à quel point l'URSS se servait, faisait son beurre, son miel de ce qui est en train de se passer.
D'où la propagande soviétique, voilà. Avec la Pravda, qui rebondit sur l'Alabama et Birmingham.
Absolument, et qui n'arrête pas de dire, voilà ce que c'est que le rêve américain, Birmingham c'est le... Vous voyez, on vous présente le rêve américain. Non, non, l'Amérique c'est un pays raciste. Et la crainte des États-Unis, c'est de voir ce discours prendre de plus en plus d'ampleur, notamment chez les non-alignés, c'est-à-dire en Asie, en Afrique, un discours qui peut fonctionner derrière ces populations qui sont des minorités aux États-Unis. Donc il y a une vraie inquiétude. Et donc il faut lire aussi le discours de Berlin, pas uniquement comme un acte symbolique de guerre froide, mais aussi comme une réponse idéologique à cette petite musique qu'on entend depuis plusieurs semaines dans la presse russe et au-delà dans les pays non-alignés, qui est de dire ben, finalement les États-Unis sont un pays raciste. Et donc il va... pour dire au monde entier, ce mur est la preuve que le modèle communiste ne plaît pas, que les gens veulent fuir le modèle communiste et que les communistes, et les soviétiques en particulier, n'ont d'autre solution que d'ériger un mur, ce qui est donc le signe que leur idéologie, elle est mauvaise, nauséabonde et qu'il faut évidemment pencher plutôt vers la démocratie libérale.
Quel est l'écho de ce discours aujourd'hui encore ? Il n'y a pas longtemps, Obama était en Allemagne.
De ce discours, il reste vraiment une phrase, hein, Ich bin ein Berliner, qui est magnifique, qui a d'ailleurs été l'objet d'interprétations un peu fallacieuses sur une faute de grammaire, etc. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle existe en archive, hein, les gens peuvent regarder sur Internet, c'est écrit de manière phonétique parce qu'il ne parle pas allemand du tout, donc c'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est grammaticalement juste, hein, c'est pas uniquement un gâteau, hein, Ich bin ein Berliner, ça peut se dire, c'est devenu même un slogan, puisque vous savez, je suis Charlie, qui accompagne les attentats, mais aussi depuis dès qu'il y a un drame, je suis, ça vient vraiment de là. Hein. C'est l'idée de l'incarnation, de vraiment je fais corps avec une cause, avec une situation dramatique. Et effectivement, on est là dans quelque chose qui est resté. Hein. Il y a l'image, effectivement, et ça, l'image d'Obama à Berlin, elle a aussi marqué profondément les choses. Souvenez-vous, Berlin, il était avant l'élection présidentielle, il était en 2008, pendant l'été 2008. Hein. Et donc ça y est, la machine à fantasmes avait fonctionné, c'est un nouveau Kennedy, donc c'est devenu un marqueur pour les Américains, mais aussi pour les Européens. C'est aussi le symbole d'une relation forte entre l'Europe et les États-Unis, entre deux continents, qui peut-être deux blocs, qui peut-être parfois se regardent en chien de faïence, mais qui, dans les moments graves, sont ensemble. Il y a quelque chose là d'assez émouvant, et d'une certaine manière, le « je suis Ich bin ein Berliner » renvoie un peu à « nous sommes tous Américains » du 11 septembre. Il y a quelque chose là d'un horizon commun, certainement exagéré et contestable d'un point de vue peut-être historique et idéologique, mais qui est mis en exergue, et peut-être qu'il y a là aussi à trouver dans l'importance symbolique de ce discours auquel vous accordez même une émission aujourd'hui en France en 2017.
Merci beaucoup Thomas Negarov pour votre analyse. Je rappelle le titre de votre livre, Kennedy, une vie en clair-obscur, charmant Colin. Je le conseille vraiment comme lecture pour cette fin d'été et pour ce début d'automne.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était Les Grands Discours. Aujourd'hui, Berlin 1963, Kennedy face au mur. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi découvrir la série des webdocs Les Grands Discours sur les sites de France Inter et de Arte. Belle fin d'été et bonne rentrée à vous tous.
Merci à vous Frédéric Barrère pour toutes ces émissions estivales sur Les Grands Discours. Dimanche prochain dès 10h, c'est avec Eva Bester que vous avez rendez-vous sur France Inter pour une nouvelle saison de Remède à la Mélancolie.